Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire, aujourd'hui, on va consacrer notre coup de cœur ciné au film Un petit miracle. Sophie Boudre et Jonathan Zakaï sont nos invités exceptionnels pour en parler. Le film vient de sortir en salle, je vous le conseille, on en parle dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé consacrés à la vie, l'amour tout de suite. Le film d'M6, diffusé demain soir avec une soirée spéciale consacrée à la mucoviscidose. Nous aurons le plaisir de recevoir le réalisateur Nicolas Cuche, accompagné d'Anne-Marie Vin, Louis Durand, Sandy Affioni et également Anna Biolay. Une partie de l'équipe sera avec nous pour une grande spéciale. Il était interprète de Léo Castelli dans Plus belle la vie. Il sera au théâtre à partir de mercredi. Pierre Marteau sera notre invité exceptionnel pour en parler. Mazarine Pinjot également sera notre invité après avoir été invité dans les grands entretiens d'LCPA. Elle se retrouve de l'autre côté de la barrière. Et ce coup-là, c'est elle qui va interviewer avec un sujet d'actualité. On vous dit ça tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, nous aurons le grand plaisir de retracer le parcours d'Enola et Louis dans la Star Academy. Ils seront avec nous pour nous parler évidemment de ce parcours, mais également de leur projet. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Et en exclusivité podcast aujourd'hui, nous aurons également le plaisir de recevoir Thomas Salvador pour la sortie du film La Montagne.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à un bien joli film qui vient de sortir dans les salles. Ça s'appelle Un petit miracle et il porte très très bien son nom. Sophie Boudre, la réalisatrice, est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour, merci de nous inviter.
Merci d'être avec nous. Il était l'homme de nos vies il y a quelques mois. Il était déjà dans Chut, on écoute la télé. Au mois d'octobre, il est de retour. Jonathan Zakaï. Bonjour Jonathan.
Ben rebonjour, hein. on se lâche plus là.
Mais on se lâche plus cette saison, hein. T'as vu, hein. Il y a des fois on se croise pas de la saison et là deux trois fois. C'est génial.
Ouais. Non, c'est un plaisir d'être là. Et écoute, je suis très heureux de représenter ce beau film là que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner et à découvrir.
Ça m'étonne pas parce que franchement on a passé un moment merveilleux en allant voir ce film. C'est un peu un choc des générations et à la fois voilà, on se retrouve dans une histoire d'école qui brûle et ils vont devoir trouver refuge justement et bien dans une maison pour personnes âgées du coin et il va y avoir la magie qui va opérer entre cette ancienne génération et la nouvelle et ces enfants et ces personnes âgées qu'en fait ça va égayer et on se demande pourquoi ça n'existe pas plus et pourquoi ça n'existe pas vraiment ce genre de situation.
Ça commence à exister de plus en plus. Parce qu'ils sont aperçus que de réinjecter de la jeunesse chez des anciens, ça redonne de la vie. Et ils sont en train vraiment de mettre des structures pour que des crèches soient intégrées dans des maisons de retraite. Ça commence à cartonner.
Alors, il y a pas mal d'amis dans ce casting. Hein. Je pense à Michel Cremades qui nous avait parlé de ce film il y a déjà quelques mois qu'on adore. Mais il y a un casting incroyable et les jeunes enfants, c'est pareil. Combien il a fallu casser d'enfants, Sophie, pour arriver à trouver ces pépites en tout cas?
350. J'en ai vu beaucoup. Je les ai beaucoup vus et revus et re-revus. Et re-revus parce que les enfants ils ont des changements d'humeur et il faut savoir sur qui on tombe et casser les bons enfants parce que quand on part sur 2 mois et demi de tournage sur des premiers films pour des enfants entre 6 et 9 ans, il faut pas se planter, ils ont été étonnants. Vraiment étonnant.
Jonathan, alors toi tu joues le directeur justement de... Comment on appelle ça? Un EHPAD ou pas? C'est pas vraiment un EHPAD, c'est une maison de retraite. Toi tu joues le directeur qui voit pas très bien d'un bon œil l'arrivée de l'institutrice incarnée par Alice Paul et de ses enfants. Et qui petit à petit, ton personnage évolue. Il est à la base très procédurier, très, on va dire, garde-fou de toutes ces procédures qui vont un peu voler en éclats à un moment donné devant l'humanité en fait.
Oui, c'est vrai. C'est assez réaliste par rapport au directeur d'EHPAD. Je veux dire, il a surtout beaucoup de problèmes déjà lui-même. Il est dépassé.
À gérer, ouais.
Il est déjà dépassé chez lui avec ses pensionnaires, ses habitants. Donc, quand en plus on lui propose une nouveauté avec des enfants partout, les miasmes, le truc, le show, c'est la panique pour lui. C'est double panique et donc il a du mal à se laisser convaincre. Et puis évidemment, c'est vrai que c'est une magie. Et comme disait Sophie, c'est vrai qu'on a vu. Moi, j'ai d'ailleurs vu. J'avais jamais vu les images de reportage de vraiment les enfants maintenant qui sont intégrés, machin. C'est marrant, ça m'a fait tellement penser au film. Je me suis dit, on a vraiment réussi le film parce que la joie qu'on voyait chez ces personnes âgées de découvrir ces enfants, les échanges qu'il y avait en vrai dans la réalité, qu'on retrouve dans le film et qui sont tellement joyeux, qui font du film une comédie, mais une comédie vivante et tellement finalement pas loin du réel, quoi. J'étais très touché de découvrir à quel point les vraies images étaient à l'image du film, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait un film de aussi, c'est un film d'espoir parce que c'est vrai que même je voyais, j'ai un ami à moi dont la mère a Alzheimer, qui est évidemment touchée par le personnage de Madeleine parce que donc il y a aussi beaucoup d'émotions pour certaines personnes qui reconnaissent des proches et donc voilà, il y a beaucoup de choses.
Le personnage de Madeleine m'a beaucoup ému aussi. Elle jouait d'ailleurs la maman de Rocha dans Plus belle la vie et elle est incroyable, cette comédienne. Qu'on se qu'on l'aime.
Anne-Marie Ponzo, elle est fantastique. Elle est remplie de naïveté. On dirait vraiment une petite fille. Et c'est une actrice admirable. Avec les enfants, elle a été fantastique parce qu'elle t'a embarqué tout ça. Elle avait beaucoup de scènes avec les seule avec les mômes et elle est démente.
Elle fait passer des émotions assez incroyables en tout cas à l'écran. C'est ce qui t'a plu en premier justement, Jonathan, toi, dans le scénario, dans cette histoire.
Oui, c'était d'abord la rencontre avec Sophie parce qu'elle a un enthousiasme. J'ai l'impression, j'ai envie de dire presque qu'on voyait déjà l'humeur du film dans la rencontre avec elle et avec sa personnalité. Je savais que ça allait être très vivant et qu'elle allait, elle aime les enfants vraiment. Et puis c'était une vraie belle histoire avec un fond social quand même, sans être lourd. Et ce fond social qui est aussi la réalité qu'elle assume aussi dans cette comédie. Moi, j'aime bien les comédies qui assument le réel, mais sans le rendre pesant. Je trouve qu'on est quand même dans une période où on a beaucoup de films qui parlent des choses avec beaucoup de réalisme et c'est très bien. Et que parfois on a besoin, comme les Anglais le font beaucoup plus qu'en France, de parler avec légèreté de choses concrètes.
Sans être moralisateur.
Exactement. On va écouter la bande-annonce, ça s'appelle Un petit miracle. Il est dans tous les bons cinémas. Allez le voir, foncez le voir. La première semaine, on le dit hein, souvent, est très très importante pour tous les réalisateurs et les comédiens. C'est là que ça se joue les deux premières semaines en gros. Donc allez voir, foncez-y. Voici la bande-annonce pour vous donner envie.
Il va y avoir de l'action.
Oh, bonjour.
Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison.
Mais arrête.
Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté d'être des fleurs.
Attention, tu comptes. 3, 4...
Toi, tu prends les légumes et moi la viande.
Eh oh, tu vas pas m'arnaquer. On fait 50-50.
Coucou, Rose.
T'as vu mes colliers?
Oh, ils sont jolis.
T'es étanche.
C'est fini, tout ce qu'on a réussi, ça compte pas.
On se calme, vous êtes censé donner l'exemple.
Faut les faire revenir, sinon on va crever à petit feu.
Je croyais que vous voulez qu'on vous laisse tranquille.
J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde.
Réveille-toi.
Tu crois que c'est une bonne idée?
Non, c'est une très mauvaise idée.
Un petit miracle, c'est le film à ne pas manquer. Sophie Baudret et Jonathan Zakaï sont avec nous aujourd'hui pour en parler. On va essayer d'arriver sur vos plus beaux souvenirs de tournage que j'aimerais évoquer avec vous. Alors on va évoquer du côté derrière la caméra pour commencer parce que je suis sûr qu'il y a eu plein de moments de grâce dans ces rencontres et dans ce choc des générations qu'on découvre dans le film.
Moi, c'est quand je voyais sincèrement arriver les enfants le matin parce qu'il y avait une espèce de petite ritournelle où ils venaient comme une petite armée, les uns derrière les autres en chantant et avec un petit mimétisme physique et ils défilaient dans les pads avant d'aller sur le plateau et ils avaient une telle banane que c'était très contagieux.
Le décor est très beau aussi.
Alors le décor est incroyable, on a eu beaucoup de chance que j'ai fait pas mal de repérages. Je suis arrivé à un moment donné sur cette vieille bâtisse qui est une bâtisse qui normalement est plutôt quelque chose d'associatif où il se passe rien et le champ contre champ parce que l'aqueduc existe vraiment, on l'a pas réincrusté et mon chef décorateur a fait un travail admirable pour que ça soit un peu aux normes d'une maison de retraite, des normes un peu loufoques mais quand même, je voulais pas que ça sente trop le médical non plus.
Meilleur souvenir pour toi Jonathan?
Je me dis que le meilleur souvenir, je crois vraiment que c'est quand Eddie danse avec la jeune fille avec qui il a cette complicité. En fait, j'ai découvert sur le plateau cette scène, ils dansaient ensemble et je me suis fait avoir par l'émotion en live en fait. le voir cet homme, voilà, Eddie, cette petite fille avec lui qui danse, je sais pas, c'était tellement joli, vraiment, je dois dire que c'était vraiment un vrai moment d'émotion sur place qui retranscrit dans le film. Et déjà sur place, il y avait un truc qui se passait, quoi, d'émotion.
Des moments de grâce, ça, on appelle ça.
Et surtout faire danser Eddie sur Michel Thor, parce que c'est quand même pas dans ses habitudes de danser des slows sur Michel Thor, mais on y est arrivé.
On peut citer un peu toute une partie du casting, Sophie ?
Oui, eh ben alors Jonathan, Zakai évidemment, Alice Paul, Eddie Mitchell, Émilie Gavoy-Kahn, qui est l'infirmière de l'EHPAD et qui est absolument extraordinaire, Gwendoline Hamon, Michel Cremades, Régis Laspalès.
En mer, il est extraordinaire, Régis Laspalès.
Ah ben, il s'y croyait, j'ai cru qu'il allait se présenter à la mairie de Vintabrin.
Ça m'étonne pas.
Après, non, il était à fond, il était à fond.
Il y a dû y avoir des bons moments là aussi.
Et puis après Anne-Marie Ponzeau et Janine Bissat qui joue Rose. Voilà, pour ne citer qu'eux, mais on était une grosse troupe.
Bon, et tous ces beaux enfants, en tout cas, ça c'est des pépites des futurs du cinéma. Et ça c'est chouette de faire découvrir effectivement ces jeunes gens.
Mais vous savez, faire tourner des enfants quand c'est leur premier film, soit ça les traumatise à vie et c'est extrêmement dangereux, soit vous les embarquez, même s'ils continueront pas ce métier, mais au moins à garder un souvenir extrêmement positif. Ils sont petits, hein, ils ont 6 et 9 ans, on peut vite les massacrer. Hein, donc j'ai gardé beaucoup de rapports avec tout le monde et on a vraiment gardé un lien qui est extrêmement douillet.
Sans rien dévoiler de la fin, j'ai trouvé que ça restait quand même ouvert et que selon le succès, est-ce que Sophie t'aurais envie, en tout cas, qu'on retrouve certains de ces personnages et qu'on puisse peut-être avoir une suite un jour ?
Pourquoi pas ? Moi j'ai toujours peur des suites parce que je trouve que la singularité d'un film c'est aussi d'en faire qu'un. Maintenant les suites ça devient un petit peu plus commercial, mais je sais pas, on reste ouvert.
Bon, ça c'est bien. Jonathan, toi aussi reste ouvert à une suite éventuelle ?
Oui, moi j'aimerais bien, s'il y a une suite, briguer la place de Régis Laspalès et qu'on soit... J'aimerais bien essayer de lui piquer sa place à Régis. Et surtout pour m'engueuler avec Régis, avoir des scènes avec lui. On pourrait bien rigoler, j'ai adoré cette rencontre, comme celle avec Eddie. Et donc voilà, ouais, avec plaisir. Et puis retravailler avec Sophie et avec Alice et toute la bande. Voilà.
On y retourne demain parce que humainement, ça a été quand même des grands moments de grâce.
Et ben, en tout cas, ça se ressent beaucoup à l'écran. Allez voir Un Petit Miracle, ça vient de sortir dans les salles. Sophie Baudet et Jonathan Zakai étaient nos invités. On va se quitter avec un extrait. Et merci encore infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup. Merci à toi.
Bon week-end.
Les pompiers disent que c'est peut-être un départ électrique.
Qu'est-ce qu'on va faire ?
La seule salle aux normes, elle est dans un endroit où personne veut foutre les pieds.
Écoute, c'est joli, hein. C'est juste une maison de retraite, hein.
Tu verras, ils sont mignons.
Dans votre intérêt comme dans le mien, votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanche.
J'ai hâte.
Oh, ça suffit.
Vous êtes devant la chambre de Robert, là. Robert, il dort.
Non, non, il dort pas. Robert, c'est Rose.
Bon, je me sentirai mieux si vous allez vous coucher. Georges.
J'essaie de trouver le sommeil.
Bah bien sûr, on se lit.
Allez, notre spécial La Vie, l'amour tout de suite. C'est dans un instant, alors surtout, ne bougez pas. Et Nola et Louis de la Star Academy également vous attendent. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
S'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas. S'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas. S'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi. J'ai atteint la limite. Et toi, direct, tu m'élimines. Tu crois que tu me facilites. J'aime pas les frontières que tu délimites. J'ai tant besoin de toi. Je te veux à mes côtés. Je m'en veux tant d'avoir fauté. Oui, pardonne-moi de t'avoir mis sur le côté. Ta douleur, laisse-moi la ôter. Oh bébé, fais-moi confiance. Mes mots prendront un sens. Laisse-moi juste une chance de te le prouver. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi.
sois pas en colère. Apaise ton cœur, que ce soit clair. Ce que j'ai fait, mes cœurs, on fait la paire. Donc n'aie pas peur et laisse-moi faire. Je vais nous rendre plus fort. Je ne fais que ressasser. Je ne peux pas dépasser ce qui s'est passé. Je ne peux pas cautionner pour que nous soit cassé. Je peux pas te voir me remplacer. Bébé, fais ma confiance. Mes mots prendront un sens. Laisse-moi juste une chance de te le prouver. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, reviens-moi. J'suis prêt à faire n'importe quoi. J'peux perdre tout le monde, mais pas toi.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
La vie, l'amour, tout de suite, c'est le nouveau téléfilm événement d'M6 qui va être diffusé cette semaine. Un téléfilm en plus tourné dans notre région, Nouvelle-Aquitaine, du côté de Royan, en Charente-Maritime précisément. Un film de Nicolas Cuche qu'on a toujours plaisir à recevoir. Et il le sait, c'est un de nos réalisateurs préférés. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
T'es un habitué maintenant, t'es presque un sociétaire d'émission. Puis une comédienne qu'on adore aussi, voilà, qu'on a plaisir à retrouver aussi, Anne-Marie Vin. Bonjour Anne.
Bonjour.
Qui joue le rôle de la maman, qui joue le rôle de Cathy dans ce film. Et Louis Durand qui joue le rôle de Ludo. Bonjour Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois pour parler de cette très belle histoire sous fond de mucoviscidose. Nicolas, pourquoi cette histoire? Comment c'est venu? La genèse un peu du projet, raconte-nous.
Le projet est venu de Véronique Marchat, qui est une productrice avec qui j'ai tourné Les Bracelets Rouges, avec qui j'ai l'habitude de travailler, que j'aime beaucoup, qui m'a proposé ce scénario. Et quand je l'ai lu, moi j'avais envie de filmer une histoire d'amour. C'est quelque chose, je disais aux gens, ah j'ai envie de filmer une histoire d'amour, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'ai vu dans ce scénario la possibilité de filmer une histoire d'amour entre deux adolescents. J'ai vu qu'il y avait ce fil rouge que j'avais envie de tirer dans cette histoire, plus une histoire très forte avec des personnages extrêmement forts comme le personnage d'Anne-Marie Vin qui fait la mère de cette fille, plus bon il y a la maladie, il y a la mucoviscidose, mais il y a une énergie vitale dans ce film. C'est pas un film triste sur la maladie, c'est un film au contraire plein d'énergie vitale. Peut-être que si j'ai envie de faire ces films-là, c'est parce que c'est des films qui filent la pêche, paradoxalement. C'est des films qui donnent envie de vivre, c'est des films qui sont plein de vitalité et plein d'énergie. Et c'est ça qui me motivait.
On y suit le parcours de ta fille atteinte de mucoviscidose qui vit une belle histoire d'amour avec Ludo jusqu'au jour où elle va tomber enceinte. Et évidemment, ce jour-là, on est partagé entre le risque qu'elle prend à mener cette grossesse à terme et d'accoucher en étant atteinte de la mucoviscidose. Évidemment, cette maman tiraillée par ça, hein, de la laisser aller jusqu'au bout, de la laisser vivre ça jusqu'au bout. Il a peur de la perdre, évidemment.
Ouais, c'est plus que ça. Même de toute façon, c'est une maman qui est complètement qui ne vit que dans la terreur depuis l'annonce de la maladie et qui s'est construite comme ça et qui depuis toutes ces années, qui est la capitaine du bateau, au détriment de tous les autres, de sa fille aînée, qui est jouée par Anna Biolay, de son mari, et qui finalement s'est enfermée dans cette terreur et a fini par devenir une maman extrêmement solitaire. Et évidemment, donc là, l'annonce d'une grossesse, déjà pour n'importe quel parent à l'âge de 16 ans, ça ne réjouit personne, mais en plus de ça, effectivement, pour elle, ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire l'arrêt pendant toute cette grossesse de ces traitements, ça veut dire beaucoup plus de risques et c'est inaudible pour elle, absolument inaudible.
C'est ça. Alors, Louis, c'est à cause de toi tout ça? C'est à cause de Ludo d'abord?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est à cause de moi.
Ah, c'est bien, il assume. Hein. Bon, raconte-nous, parle-nous un peu de Ludo. Qui est-il? Comment tu le définirais, toi?
Ludo, à partir du moment où Julie tombe enceinte, je le trouve un peu naïf. Il mesure la réalité toute en gardant une naïveté en...
L'amour, c'est des amoureux, quoi.
Et Julie, donc ma copine dans le film, qui aussi me cache un peu la vérité en disant non, tout va bien aller, il n'y a pas de problème, en ne laissant pas parler les médecins pour pas que j'écoute les risques et tout ça, donc voilà. Il n'est pas totalement au courant non plus du danger, quoi.
pour explorer cette maladie, est-ce que tu t'es fait conseiller, Nicolas, au niveau de l'écriture? Est-ce que tu as eu des contacts? Je pense à notre ami Pierre Lemarchal, qu'on soutient régulièrement avec son association Grégory Lemarchal. Est-ce que vous avez conversé un petit peu ensemble sur son vécu? Comment ça s'est passé?
Alors, très honnêtement, non. Par contre, tout ce qu'on tourne, toutes les scènes médicales, que ça aille d'un accouchement à la fin aux scènes où elle est auscultée à l'hôpital, tout ça est fait dans des conditions complètement réelles, avec des gens compétents autour, avec des médecins. C'est souvent des médecins qui jouent leur propre rôle, les obstétriciens qui jouent leur propre rôle. Donc, on est donc tout est juste, voilà. Après, il s'est passé quand même une chose assez incroyable sur le film. Je pense qu'on peut le dire parce que Sandy le dit, c'est que l'actrice principale, enfin celle qui tombe enceinte, Sandy, Julie dans le film, a une sœur qui a 15-16 ans, qui a la mucoviscidose. Donc, en fait, il y a eu quelque chose de très étrange dans ce film, en fait.
Un phénomène de résonance, parce qu'elle l'a appris pendant le tournage ou juste avant.
Elle savait bien évidemment que sa sœur avait la mucoviscidose, puisqu'elle vivait chez elle à peu près des choses qui pouvaient être similaires à ce qui se passe dans le film. Donc, d'une certaine manière, elle pouvait faire ce film pour sa sœur aussi. Et non, ce qui est fou, c'est que pendant le tournage, suite à des scènes du film qui l'ont interpellée parce qu'elle a appris des choses sur la maladie en tournant ce film, elle a discuté avec sa mère et elle a appris qu'elle avait le gène elle-même de la mucoviscidose.
Qui n'est pas déclaré, cependant.
Qui n'est pas déclaré, heureusement pour elle.
C'est assez dingue cette histoire, et il est vrai que cette histoire d'amour entre ces deux ados nous emmène, et évidemment cette maman nous embarque aussi dans cette détresse, à la fois parce qu'elle a peur pour sa fille, on sent vraiment cette peur.
Tous les parents, on ne met pas du tout des enfants au monde pour apprendre que potentiellement ils vont ils vont souffrir, et puis surtout ils vont certainement avoir moins d'espérance de vie que nous. C'est absolument c'est trop vertigineux, c'est impossible à accepter. Donc voilà, c'est effectivement l'histoire principalement de Ludo et Julie et de leur histoire d'amour et tout ce qu'on est capable de faire
par amour.
À cet âge-là, par amour, et tout ce qu'on est capable de déplacer, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se passer et toute la passion qu'on met dedans. Et c'est aussi effectivement l'histoire de parents qui vivent avec une enfant malade. Alors là, c'est la mucoviscidose, mais en fait c'est assez universel. C'est-à-dire du fait qu'à partir du moment où on a un enfant malade, qui donc est élevé avec ce sursis, c'est en ça que j'aime beaucoup le film aussi, c'est qu'est-ce qu'on a droit de vivre? Et donc on a des strates différentes, on a le point de vue parental, on a elle qui vit au quotidien ça, à qui on a asséné toute son existence, fais attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis il y a ce personnage de Ludo qui lui, c'est un gamin de 16 ans qui tombe amoureux d'une fille passionnément et qui se dit, ouais, allez banco, c'est la femme de ma vie et ça sera la femme de ma vie. Et puis à 16 ans, on en est tellement persuadé, de toute façon, qu'il n'y aura personne d'autre derrière, qu'on y va.
On va terminer par votre scène qui vous a peut-être le plus marqué, Anne.
Il y en a plein. Alors c'est marrant, tout à l'heure on parlait de l'accouchement, qui est une des scènes finales. Elle m'a marquée parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose de très bouleversant par rapport à Sandy, qui est une jeune actrice, c'était peut-être la deuxième fois qu'elle tournait. Et puis il y a eu quelque chose, voilà. Elle a appréhendé beaucoup la séquence parce qu'évidemment elle n'a jamais accouché, qu'elle stressait énormément et qu'il s'est passé quelque chose de très beau dans son lâcher prise. Mais sinon, franchement, il y en a plein des séquences que j'aime énormément, que je trouve très intelligentes, notamment le moment où les deux jeunes nous apprennent la grossesse. Je l'adore, cette séquence, je la trouve hyper bien filmée dans les dialogues. C'est à la fois drôle et surprenant.
Oui.
Moi, c'est également ma scène préférée, c'est quand j'apprends à mes beaux-parents la vérité. J'ai adoré la tournée, et c'était génial. Sinon, la scène qui m'a le plus impressionné, pareil, hein, c'est le moment de l'accouchement, voir Sandy dans cet état. J'ai même pas eu besoin de jouer. C'était simple. Je suis rentré.
Ça t'a mis en transe aussi.
Ah ouais, c'était vraiment. Elle jouait très bien.
Bon, Nicolas, fier de toute cette équipe.
Ouais, je suis très très fier de toute cette équipe et j'étais impressionné par Anne Marivin parce que je trouve que le rôle, tu l'as vraiment transcendé ce rôle et tu lui as donné une palette qui n'était pas forcément évidente au départ, et tu arrives vraiment à retranscrire toute la complexité du personnage et comment tout d'un coup on peut aller très loin dans son côté totalement excessif tout en étant de son côté aussi en permanence et sans la juger en fait. Et je trouvais ça fort parce que ce personnage, il pouvait vite basculer d'un côté, on pouvait vite se la prendre en grippe, et en fait arrive à garder ce personnage jusqu'au bout. Et je pense qu'il y avait un test vraiment difficile dans ce film, c'est que tu étais avec des comédiens d'un naturel fou, en réalité tu étais aussi naturel et juste qu'eux. et c'est pas évident.
Je vais tourner qu'avec Nicolas Cuche.
Voilà. Ça ne m'étonne pas.
C'est ce que je dis, c'est pas évident du tout quand t'es avec, parce qu'il y a un côté très naturaliste et très très juste qu'ont amené Sandy les deux, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils jouent. Donc derrière, si jamais on donne l'impression de jouer, il y a un décalage qui peut vite se créer, qui peut se faire avec beaucoup de comédiens à mon avis. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci Louis, merci Anne et merci Nicolas pour cette belle histoire qu'on va découvrir sur M6. Et je vous dis à très bientôt. On va se quitter avec la bande-annonce.
Une création exclusive M6.
La première fois qu'on s'est parlé avec Ludo, j'avais 16 ans. J'ai tout de suite su que lui et moi, c'était pour la vie.
Je t'aime.
16 ans, c'est très jeune. Mais quand votre espérance de vie ne dépasse pas 30 ans, 16 ans, c'est déjà la moitié.
Il y a un truc qui va pas chez Julie.
Je suis enceinte.
Mais non.
Si.
C'est une blague. C'est pas possible, c'est trop dangereux pour toi.
Toi aussi, tu peux mourir. Papa peut mourir, tout le monde peut mourir.
Je vais te faire avorter.
Tu es heureuse, je le veux, ce bébé. On veut avec Ludo.
La vie, l'amour, tout de suite. Mardi prochain sur M6.
Allez, on continue à parler de cette fiction tournée dans notre région. La vie, l'amour, tout de suite, après Anne, Louis et Nicolas. On continue à en parler, à accueillir les comédiens de ce très beau film que vous allez découvrir cette semaine sur M6, avec l'héroïne de ce film, Sandy Afflioni, qui est avec nous. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui incarne Julie Briand, justement. Et celle qui joue le rôle de ta sœur, Anna Biolay. Bonjour Anna.
Bonjour.
Moi, Sandy, la première chose que j'ai envie de te demander, comment tu as appréhendé justement ce rôle? Parce que c'est pas si simple que ça pour un comédien d'appréhender un rôle de quelqu'un qui existe. Parce qu'on veut pas trahir souvent, on veut rester fidèle justement à ce qu'il a vécu.
C'est totalement vrai. C'est encore plus stressant qu'un rôle normal. Concernant la maladie, je sais pas si c'est de la chance, mais je l'ai au quotidien vu que ma sœur justement a la mucoviscidose. Donc j'ai pu m'imprégner un peu plus facilement dans le rôle vu que je le vis au quotidien. Donc je connais un peu les circonstances, hôpital, médicaments, aérosol, etc. etc. Mais très stressant de savoir que je dois interpréter quelqu'un d'autre qui existe dans la vraie vie. Donc c'est pas forcément moi et mon côté. Je peux pas donner totalement de ma personne à moi. Je dois quand même me dire je suis Julie Briand et pas quelqu'un qui a été fictif ou quoi que ce soit.
Alors, toi tu joues le rôle d'Amélie, Anna, qui réveille... recèle aussi des secrets. Ça va pas être si facile que ça aussi à dire, à avouer. Vous le découvrirez en regardant évidemment le film. C'est un peu, je vais pas dire l'enfant oublié, mais c'est un peu celle qui passe toujours au second plan par rapport à Julie dans la famille.
Oui, c'est peut-être pas oublié, mais peut-être un petit peu, oui, c'est ça, mis à part. Mais en même temps, quand on a une famille où on a un enfant qui a une maladie chronique, c'est vrai que ça paraît pas étonnant que l'autre puisse être un peu délaissé.
Malgré ce qu'elle ressent, on la sent très attachée à sa sœur, malgré tout.
Ah oui, Amélie est très très attachée à sa sœur et Julie aussi, mais et heureusement d'ailleurs. Mais je pense que c'est une famille avec des femmes très fortes et un père très fort, et donc il faut qu'elle reste soudée, quoi. Elle tient à sa sœur, elle aime sa sœur. Donc même si c'est dur pour elle, elle passera à sa sœur avant, dans la plupart des cas, je pense.
Il y a une scène particulière que vous retiendrez? Alors moi, je pensais à la scène de l'accouchement pour toi, Sandy, évidemment, qui a dû être une scène forte en émotion pour toi à vivre.
C'était la scène la plus dure à réaliser. C'était intense et en fait, c'est le fait déjà qu'il y avait des conditions très strictes. On ne pouvait pas être toute l'équipe technique dans la salle d'accouchement. C'était très restreint justement pour l'hygiène, etc. Enfin, c'était une vraie salle d'accouchement, c'était une vraie équipe médicale. C'était très stressant, mais je me suis beaucoup sentie dans le personnage. Bah, je pleurais pour de vrai. Donc franchement, c'était une des pires, mais aussi la meilleure scène que j'ai faite. Enfin, que en tout cas, j'ai ressentie à mille à l'heure, comme dit Julie.
Ouais, c'est vrai, c'était une vie à mille à l'heure. Pour cette jeune fille atteinte de la mucoviscidose qui va décider, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques instants, mais dans ce film, de croquer la vie à pleines dents, qui va tomber enceinte, qui va vivre une histoire d'amour incroyable avec Ludo, et c'est ce qu'on va suivre dans ce film. Anna, pour toi, est-ce qu'il y a un moment particulier, il y a cette scène que tu as su incarner de façon très drôle, quand t'as personne en face de toi, que t'as plus personne, tout le monde te plante, et puis bah que tu révèles mais en fait t'as personne, quoi?
Oui, c'est ça, elle utilise l'humour pour s'en sortir, parce qu'au fond, sans humour on fait comment dans la vie, surtout dans des situations aussi difficile. Oui, moi, ça a été la scène que j'ai préféré faire, parce que on était tous ensemble tout au long de la scène quasiment, et que c'était super de pouvoir travailler tous ensemble, quoi. C'était une expérience que j'oublierai pas.
Voilà. Bon, moi, je vous invite en tout cas à découvrir cette fiction, La vie, l'amour, tout de suite diffusée cette semaine sur M6. On parle de mucoviscidose dans ce film. Et on rappelle encore une fois qu'il est important de soutenir la recherche, que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut repousser en tout cas l'espérance de vie de cette maladie. Vous avez les associations Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal qui œuvrent très fortement en tout cas pour que cette maladie soit beaucoup plus vivable pour les patients. Donc voilà, si vous pouvez aider, en tout cas, voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et à bientôt, on va se requitter donc avec un petit extrait.
La première fois qu'on s'est parlé avec Ludo, j'avais 16 ans.
Salut.
Salut.
T'as quelque chose à faire maintenant?
Là, j'ai rendez-vous.
Il y a une soirée chez Théo si tu veux. Tu veux passer?
Je sais pas trop.
J'ai deux casques, je peux passer te prendre aussi.
Je dois vraiment te laisser.
Vas-y.
Non mais viens, laisse-la, elle est relou. Comme ça, tu m'amènes.
Ah non, mais j'ai qu'un casque en fait.
J'ai tout de suite su que lui et moi, c'était pour la vie. Bon, je sais ce que vous pensez. 16 ans, c'est très jeune. Mais quand votre espérance de vie ne dépasse pas 30 ans, 16 ans, c'est déjà la moitié.
Et notre coup de cœur télé cette semaine est consacré aux grands entretiens d'LCP comme on le fait régulièrement. C'est une nouvelle salve d'entretiens qui arrivera à partir de dimanche à 23h consacrée à la philosophie du vivant et qui sera incarnée ce coup-ci par Mazarine Pinjot qui est avec nous. Bonjour Mazarine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors après avoir été invité de ces grands entretiens, eh bien vous allez passer de l'autre côté du siège pour être l'intervieweur ce coup-ci. Et vous allez pouvoir interviewer de nombreux philosophes et maîtres de conférences, notamment avec le premier. Ça sera dimanche à 23h avec Patrice Maniglier, où on va s'interroger notamment sur notre place dans ce monde et avec le réchauffement climatique et tout ce que ça comporte avec. Mais déjà, ça fait quoi de se retrouver du coup de l'autre côté du miroir, Mazarine?
Bah, c'est plutôt agréable, ça fait plus de travail.
Ben oui, j'imagine.
Évidemment, voilà, ça se prépare, puisque c'est bien de connaître quand même l'œuvre de la personne qu'on interviewe. Ça fait partie de l'intérêt du travail aussi, enfin, c'est ça aussi qui m'intéressait. Et donc évidemment, quand on est soi-même interviewé, on n'a rien à faire sinon répondre aux questions qui nous sont posées. Donc évidemment, c'est pas du tout la même position, mais c'est franchement, c'est assez agréable.
Alors vous avez travaillé du coup ce sujet-là, la philosophie du vivant. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce sujet-là qui vous a fait dire oui pour en assurer en tout cas l'animation?
Je pense que la question du vivant, elle est centrale aujourd'hui et elle est sous-jacente à pas mal de questions, même si on s'en rend pas vraiment compte. Je sais pas qu'on pense, par exemple, à tout le débat qu'il va y avoir sur la fin de vie, même la question des retraites, la question de la médecine, les avancées technologiques en termes de médecine, la bioéthique, enfin tout ça, ça relève de la question du vivant, mais on peut aussi aller voir du côté de l'économie, du politique, la question animale, etc. Donc en réalité, le vivant, ça fait le lien entre énormément de questions d'actualité, et je trouve que c'était intéressant de prendre justement l'angle philosophique pour relier un petit peu, pour mettre en évidence le fait que le vivant, en réalité, est présent, même si on s'en aperçoit pas. Par ailleurs, il y a évidemment la question de la crise climatique qui est centrale et qui est aussi en lien avec le vivant. C'est les raisons pour lesquelles on a choisi cet angle qui nous paraissait central et important.
Oui, c'est clair. Premier invité, Patrice Maniglier, donc à 23h dimanche prochain sur LCP. La deuxième invitée, Jocelyne Porcher. Alors, pour Patrice Maniglier, les philosophes et maîtres de conférences en philosophie à l'Université de Paris-Nanterre, Jocelyne Porcher, elle, est sociologue à l'INRA. Quels sont les sujets qui seront évoqués du coup avec ces deux invités-là, avec Patrice notamment? Je crois qu'on parle beaucoup de cette crise climatique et de notre place sur cette Terre.
Oui, tout à fait. Patrice Maniglier, c'est quelqu'un qui a un petit peu synthétisé la pensée de Bruno Latour, qui est à la fois complexe et qui a beaucoup écrit. Donc c'est pas mal d'avoir une synthèse extrêmement fine et intelligente. Et donc, en effet, il permet de comprendre l'hypothèse Gaïa, de comprendre ce qu'a développé Bruno Latour, et puis, à son tour, Patrice Maniglier, puisqu'il a également ajouté ses propres concepts. Et donc, il interroge la place que l'homme a dans le monde, le fait que, avec la modernité, l'homme se soit un peu émancipé de la nature et que ce soit retourné contre elle, et la façon dont on devrait se réinscrire dans un système de relations, puisque tout est lié, et d'autant plus aujourd'hui avec la mondialisation, et comment il faudrait repenser la mondialisation dans un sens vertueux, quoi, en n'oubliant jamais qu'on n'échappe pas à la nature, mais qu'on en fait partie. Donc voilà, il y a toute une réflexion vraiment intéressante sur cette économie de la relation. Et je trouve qu'il est assez clair, et ça aussi c'était les choix des invités, ce sont la plupart du temps également des enseignants, donc en général ils sont plutôt pédagogues, et c'est important évidemment quand on parle de philo, parce que l'idée c'est pas de faire fuir le public, hein, c'est de rendre la pensée
accessible
à la fois simple, éclairante et accessible, absolument.
Ouais, exactement. Et quand on écoute Patrice Madiglier notamment, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il fait vraiment prendre conscience quelque part qu'on est des locataires en quelque sorte de la planète. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on ressent au plus profond quand on l'écoute parler.
Oui absolument. Et en plus sa pensée est très structurée, donc c'était agréable aussi de discuter avec lui, parce que il y avait un cheminement très très logique et presque mathématique. Ce qui est intéressant, c'est aussi il explique ce que c'est que la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie, elle est pas là pour apporter tout de suite des réponses, mais en revanche pour savoir exactement bien poser les problèmes. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Les problèmes, d'une certaine manière, on les reçoit tout fait, et puis on cherche à trouver des solutions. Mais en réalité, il faudrait d'abord arriver à les formuler avant de chercher des solutions. Et c'est pour ça que il me semble que la philosophie, elle a un rôle à jouer fondamental, y compris politiquement.
Alors, la philosophie du vivant, ça sera donc le sujet qui sera évoqué lors de 6 grands entretiens. Les 2 premiers sont diffusés dimanche à 23h avec Patrice Madiglier et Jocelyne Porcher. On aura 2 autres rendez-vous le 12 février, également à 23h avec Corinne Peluchon et Emmanuelle Coccia. Et on aura également 2 autres entretiens le 19 février qui se clôtureront avec votre série de 6 Mazarine avec Olivier Rey et Sophie Nordman, qui seront donc diffusés sur LCP. On va évoquer vos projets. Mazarine, on sait que vous écrivez beaucoup. Il y a peut-être pas mal de choses qui se présentent à l'horizon pour 2023.
Oui, alors j'ai un roman qui doit sortir normalement à la rentrée littéraire de septembre 2023.
Ouais.
Une pièce de théâtre aussi qui devrait commencer à être jouée. Alors d'abord à Toulouse, et que j'ai coécrite avec ma cousine Léonie Pinjot, qui est metteur en scène, et qui va faire un petit tour en France avant d'arriver à Paris. Donc, voilà. Et puis là, on a un livre de philosophie pour enfants qui est sorti à Noël, et qu'on accompagne encore un petit peu. Et voilà.
C'est très bien tout ça. Merci en tout cas, Mazarine. Et puis on se retrouve donc dimanche à 23h sur LCP pour les 2 premiers numéros de ces grands entretiens que vous animez. À bientôt et merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À très vite.
Le vivant étant devenu une notion politique, Mazarine Pinjot reçoit de grands penseurs des enjeux liés à la démocratie, à la préservation de la vie ou du réchauffement climatique.
Est-ce que le philosophe a un rôle à jouer là-dedans, et si oui, lequel ?
Pour aider à compliquer le problème, mais qui est nécessaire parce que, en fait, le vrai problème avec les problèmes, c'est qu'en général, on n'en prend pas la mesure.
La crise que nous traversons aujourd'hui, on le sent bien, appelle à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une crise très globale.
On est appelé à réimaginer, à reconfigurer, à produire des nouveaux savoirs sur les mondes, en fait.
Les grands entretiens inédits de Mazarine Pinjot, ce dimanche à 23h.
Allez, chers auditeurs, nous allons parler du spectacle mis en scène et conçu par Pierre Marteau, l'un des héros de votre série Plus belle la vidéo Castelli. Eh bien, va se donner en spectacle à partir de mercredi jusqu'à samedi à 19h et dimanche à 15h au 35 rue Léon dans le 18e arrondissement de Paris à la Voire Moderne. Il est là avec nous. Pierre, bonjour. Merci d'être là.
Bonjour Alain, je vois que tu es très bien informé.
Exactement, c'est au théâtre de Sisyphe que ça va se passer. C'est une production compagnie Pierre Marteau. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu produis des pièces ?
Bah, c'est la première fois. Alors, c'est le nom du théâtre où je vais jouer s'appelle Le Lavoir Moderne et le spectacle s'appelle Le Mythe de Sisyphe. C'est une adaptation d'un texte d'Albert Camus, qui est assez connu, que peut-être certains des auditeurs ont pu découvrir à l'école, enfin au lycée, enfin voilà. Et oui, alors c'est-à-dire que c'est une nouvelle activité. J'ai créé ma compagnie au mois de mai l'année dernière, et c'est mon premier spectacle. Bon, j'ai déjà joué au théâtre évidemment, mais là c'est le premier spectacle de ma compagnie et je joue. J'en ai initié le projet et je suis mis en scène par le monsieur qui m'a formé au théâtre et qui a fait de moi l'acteur que je suis aujourd'hui. Ce monsieur s'appelle Jean-Claude Fall. Voilà.
C'est un seul en scène, Pierre ?
Oui, c'est un seul en scène. Moi, ça faisait 20 ans que je voulais faire un seul en scène. Bon, entre-temps, il y a eu Plus belle la vie, je vais pas me plaindre. Hein. J'étais très heureux de jouer dans Plus belle la vie. Et puis, quand j'ai compris qu'on voyait moins mon personnage, et puis finalement, après, ça s'est Pleuvait la vie, c'est complètement arrêté. J'ai eu l'idée de ce projet. Ouais, je suis seul en scène, ça dure 1h20, voilà.
Alors, aujourd'hui, Pierre sur scène, évidemment, ça change un petit peu du Pierre comédien que nous, on connaît. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle t'attendait depuis longtemps, de monter sur scène comme ça, de te confronter au public directement? C'est beaucoup plus concret, on va dire, que d'être devant des caméras, tourner une série où on voit pas le public en face à face, si ce n'est que vous étiez inondé quand même à chaque sortie, mais de dédicaces. Mais là, c'est vraiment concret. T'as les réactions, les regards que tu vois du public qui sont en direct face à toi. C'est ça qui est bien.
Oui, c'est une relation chaleureuse qui est inégalable, surtout qu'elle se fait là à travers avec un très grand texte et puis dans un très beau lieu. Ça s'appelle le lavoir moderne, c'est réellement un ancien lavoir qui a été transformé en théâtre et les murs ont encore la trace de c'est un lavoir dont Zola parle dans la Sommoir et c'est les murs du théâtre ont encore la trace de cette histoire-là. C'est un lieu, alors c'est à Paris mais ça pourrait être une salle en Afrique ou en Asie mineure ou enfin ou dans n'importe quelle grande ville, mais un petit théâtre très très charmant et très émouvant parce qu'il transporte comme histoire avec des poutres de bois, des murs un peu abîmés, la peinture et tout ça, c'est très très beau et ça ajoute aussi à la chaleur du moment. Moi j'ai eu des moments très chaleureux dans Plus belle la vie, c'était à chaque fois qu'on allait en festival. Je t'ai croisé quelques fois, bon, tu as vu, on avait un accueil vraiment, vraiment bouleversant.
C'est clair.
Mais là, c'est différent parce que les gens se taisent au théâtre. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a que la parole de l'acteur comme ça dans les lumières. Il y a quelque chose de très sensible, de très émouvant, de très chaleureux qui passe. Et puis, à la fin du spectacle, ben voilà, on se voit avec les spectateurs et c'est aussi un très bel échange.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre d'Albert Camus, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce mythe de Sisyphe?
Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu parler de L'étranger, d'Albert Camus. En fait, c'est une pièce, c'est pas une pièce au départ. C'est une œuvre de réflexion. En fait, dans cette œuvre-là, Camus, qui est jeune au moment où il écrit ça, il a même pas 30 ans quand le texte sort, il dit un petit peu ce qu'il pense de la vie. C'est-à-dire, alors, pour aller très vite, il pense que la vie a pas beaucoup de sens. Mais plutôt que de s'attrister de ça, il se dit, ben, comme la vie n'a pas beaucoup de sens, il faut en profiter pour la vivre au maximum, avec le plus d'appétit possible. C'est de la dévorer, il y a un côté fureur de vivre chez Albert Camus. Et alors, ça, dans un premier temps, il y a cette réflexion-là. Et puis, dans un deuxième temps, il prend des exemples de gens qui sont dans un appétit de vie comme ça. Alors, il prend l'homme d'action, celui qui s'engage pour améliorer le sort des gens, l'homme politique engagé mais sincère, hein, pas celui qui va uniquement chercher des voix pour qu'on vote pour lui, celui qui vraiment veut défendre les gens. Il prend aussi l'acteur, il y a des pages sur l'acteur qui sont magnifiques, donc il y a un moment où je joue un acteur sur scène, et puis après il y a l'écrivain. Alors il y a un autre personnage dans le texte initial, mais j'ai pas pu le garder, c'est Don Juan. Ouais, Albert Camus était un très grand séducteur, mais moi j'ai pas gardé le personnage de Don Juan parce qu'il y a un moment, il fallait que je coupe. Évidemment, sinon le texte est trop long, quoi. Donc j'ai pas pu prendre tout le texte. Alors je pense que c'est un moment qui peut être très sensible, très très émouvant, très beau, un vrai moment de partage, parce que Albert Camus c'est un philosophe, mais c'est quelqu'un de très sensible. C'est pas un intellectuel froid. C'est quelqu'un qui s'intéresse de façon très sensible à la vie quotidienne des gens. Et je crois qu'on peut partager là un moment très beau d'expérience humaine, à être ensemble comme ça, partager ce moment-là. Je crois que ça peut être très beau.
Oui, et puis, enfin, vous manquez énormément public. Tu dois le voir sur les réseaux. Donc, vous retrouvez dans d'autres projets, vous retrouvez dans d'autres choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, le public ne demande que ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, personne vous a oublié, bien au contraire, et on sera toujours là pour tous vos projets. D'ailleurs, la preuve. Hein. Mais, mais il est vrai, Pierre, que vous manquez beaucoup au public, et c'est une façon, en tout cas, de pouvoir, revenir sur le devant de la scène et pouvoir repartager une autre expérience avec le public. Et il y aura donc 5 représentations. Ça démarre mercredi, c'est à 19h tous les soirs jusqu'à samedi, et puis dimanche tu joues à 15h et ça dure 1h20. Il reste encore quelques places et c'est au lavoir moderne parisien que ça se passe.
Tout à fait.
Alors, t'as monté une compagnie, c'est ta première pièce. On peut imaginer que t'es déjà en préparation peut-être soit d'une tournée pour le mythe de Sisyphe pour pouvoir aller le présenter aussi dans toute la France, ou peut-être déjà prépares-tu une deuxième pièce.
Alors, pour l'instant, je prépare pas une deuxième pièce, c'est-à-dire que j'essaye de monter la tournée du Mythe de Sisyphe. Le projet est à son tout début, donc là, j'ai des projets avec la Normandie, aussi en Suisse et tout ça, mais il n'y a encore rien de signé. Mais par contre, je vais faire des stages, je vais organiser des stages de lecture à voix haute, qui sont voilà complémentaires de mon activité au théâtre. Et peut-être que je vais faire aussi de la télé, j'en sais rien. Là, j'ai eu une proposition pour Netflix, mais j'ai pas pu l'accepter parce que j'étais au théâtre et ça me prenait tout mon temps. Pour l'instant, j'ai pas de projet de deuxième pièce en cours, parce que celle-là, elle s'est faite très vite en réalité, et je vais voir ce que ça donne après. C'est vrai que si je pouvais m'organiser entre le théâtre, la télévision et le cinéma, revenir un petit peu au cinéma, parce que j'avais commencé par ça quand même, j'en serais heureux. Je ne sais pas comment ma vie va se passer. Je suis ouvert.
Eh oui, et puis voilà. on sait pas ce qui va se passer aussi. On sait qu'il y a tout un collectif qui essaye de relancer Plus belle la vie, et peut-être que la série, on aura le bonheur en tout cas de la voir se relancer, et ça serait vraiment chouette pour tous les fans qui attendent ça avec impatience. Mais voilà, c'est très difficile aujourd'hui, on le sait, dans le contexte actuel, de pouvoir relancer ce type de fiction à gros budget. Et puis à la fois, voilà, vous êtes tous en train de partir vers des horizons différents, mais bon, voilà, en tout cas, on
mais
espère.
Oui. Mais c'est vrai qu'on a tous un peu nos projets, mais que ce soit à la télévision ou au théâtre, hein, quasiment tous les acteurs de Plus belle la vie sont dans d'autres choses là actuellement. Ça s'est fait pour beaucoup assez vite. Mais je crois qu'on est tous, enfin la plupart, la grande majorité d'entre nous en tout cas, sensibles à ce qui est en train de se négocier là avec ouais. Le collectif 2.0.
Par Florence Demey, qui est le porte-parole. Voilà. Qu'on embrasse voilà, d'ailleurs, voilà. Florence, à qui on souhaite plein de bonnes choses et plein de courage dans cette tâche.
Oui, bah ils sont très organisés, ils sont très motivés. Et puis alors, bon voilà, il y a des techniciens et des acteurs, parce que Plus belle la vie, c'était une aventure humaine. Je crois que c'est aussi ça que les gens ont vu à l'écran. Le collectif, ça regroupe des acteurs et des techniciens à égalité de pouvoir. Et de projets et d'idées, et c'est très beau quoi que des gens dont l'entreprise a fermé d'une certaine façon, Plus belle la vie c'est une entreprise, et ben ils se réunissent pour essayer de faire renaître la chose. Alors, ça va être compliqué, ça va être très difficile parce qu'évidemment il faut de l'argent, c'est un petit peu David contre Goliath, mais peut-être que David va arriver à remonter le projet, et tous les acteurs suivent ça de près.
Et, oui. Et il faut dire aussi que Plus belle la vie a été la première dans son domaine. C'est une phrase qui est souvent revenue quand on a fait notre dernière soirée dans notre région avec une douzaine de comédiens qui étaient là. C'était à jamais les premiers. Et c'est vrai que ça serait encore une fois Plus belle la vie qui serait la première série produite par Inscope. Donc voilà, ça pourrait être vraiment un événement qu'on attend en tout cas avec impatience. Oui. En attendant, Pierre, on te retrouve dès mercredi à 19h. Il reste encore quelques places. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 19h et dimanche à 15h. Ça s'appelle Le Mythe de Sisyphe, d'après le mythe d'Albert Camus aux éditions Gallimard, et c'est au Lavoir Moderne, au 35 rue Léon, dans le 18e arrondissement de Paris, que ça se passe. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci et à très vite.
Et on te dit à très bientôt.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film La Montagne de Thomas Salvador, qui est notre invité aujourd'hui, qui est aussi l'acteur principal du film aux côtés de Louise Bourgoin. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous.
Ben bonjour et merci de m'inviter.
Alors, nouveau film, vous jouez aussi dedans, réalisateur, acteur, est-ce que des fois c'est un peu compliqué? Ça c'est la première question, j'ai envie de poser à chaque fois un peu à ceux qui sont des deux côtés de la barrière, ça peut être difficile des fois.
Je pense que c'est compliqué, mais pour moi ça l'est peut-être moins que si j'avais un acteur. Ça me semble évident. Je me sens pas acteur, mais j'ai joué dans tous mes courts-métrages et mes deux longs-métrages. Mais parce que je fais des films qui sont très proches de moi. Moi, j'ai un rapport très physique aussi au monde. Et dans les films, il est question de ça, de personnages qui se confrontent au monde, à la société, au vivant, leur rapport à la nature, pas beaucoup par le corps. Et j'ai besoin de le comprendre en le faisant aussi. Et donc, je pense que je serais très malheureux de pas faire les choses. Donc nager ou faire des cascades pour Vincent Napadeka et mon précédent film, et là de grimper, marcher dans la neige pour la montagne. Parfois c'est compliqué, mais pour moi c'est peut-être
primordial. Alors c'était l'eau qui était un peu au cœur de votre précédent film. Là ce coup-ci c'est la montagne, l'altitude, les monts enneigés, presque les neiges éternelles, j'oserais presque peu dire. Hein, c'est quand même ça. Ce thème il s'est amené à vous de quelle façon?
Alors moi quand j'étais adolescent j'avais deux passions qui étaient le cinéma et la montagne. Surtout le cinéma, mais je voulais être aussi guide haute montagne. Et d'ailleurs, au collège et au lycée, à chaque rentrée, on me demandait profession envisagée. Je disais cinéaste, virgule, guide de haute montagne, virgule, cinéaste de haute montagne. Alors, je suis cinéaste et cinéaste de haute montagne maintenant. Je suis pas guide. J'ai toujours eu comme ça, dans un coin de ma tête, cette figure comme ça d'un personnage qui est en montagne et qui veut pas redescendre. J'ai eu un projet qui, pour plein de raisons, s'est pas fait il y a une vingtaine d'années, qui aurait pu être mon premier long métrage. Parce que un alpiniste qui aurait joué son propre rôle avec moi est mort avant, juste avant que je lui propose le projet. Et donc j'ai mis du temps à refaire un autre film, tout ça. Mais je savais que je ferais un jour ce film, mais que j'ai adapté évidemment au goût du jour, à mes préoccupations, à ce que je suis aussi devenu avec 20 ans de plus. Voilà.
Alors, le film commence d'une façon où il nous arrivait souvent. Cette chose-là, en pleine réunion, on trouve pas très très intéressant ce qui est en train de se passer, et on regarde par la fenêtre, et c'est là que des fois on se met à rêver, et là votre personnage, celui de Pierre, est complètement happé par ce qu'il voit à la fenêtre, ces montagnes qui vont irrésistiblement l'attirer dans ses filets finalement.
Oui, oui, moi j'ai filmé ça aussi de presque de sorte à ce qu'on sente que c'était écrit. Parce qu'en plus, le plan, le contre-champ sur lui qui a un petit moment d'absence pendant sa présentation professionnelle, c'est pas une montagne très spectaculaire. C'est vraiment le bas de piste. Au printemps, il n'y a plus de neige. Voilà, c'est pas un plan spectaculaire pour aussi renforcer le côté nécessaire. Il faut qu'il aille plus haut, plus loin et explorer ça. Puis effectivement, c'est ce qu'il fait par la suite. Puis oui, il y a les collègues qui réagissent, qui se demandent ce qui se passe. Puis c'était intéressant au montage de trouver la bonne durée pour pas être insistant et en même temps que le spectateur ressente qu'il y a une vraie petite parenthèse là, qu'il se passe quelque chose pour lui, ouais. De presque un peu magique, ouais.
Une attirance. Il y a beaucoup de fantaisie, de fantastique un peu aussi dans ce film, puisque au fur et à mesure de son ascension, il va y découvrir des choses mystérieuses. Il va y faire la connaissance de Léa, qui est jouée par Louise Bourgoin aussi. Louise est arrivée à quel moment dans le projet?
Alors, moi, je sais pas écrire pour des acteurs, donc j'ai écrit le scénario, mais dès que j'ai fini, la productrice m'a dit « Maintenant qu'il est bien le scénario,
il faut trouver l'actrice.
» Il faut trouver l'actrice, et puis j'ai dit « Ah bah oui, très bonne idée, et j'ai pensé à Louise Bourgoin. » Ça m'a semblé comme une...
évidence.
Exactement. Et bah, on a appelé son agent, et puis on lui a fait lire le scénario, et Louise l'a lu, et m'a appelé le lendemain, ce qui est quand même, je vais un peu frimer, assez exceptionnel, pour me dire qu'elle voulait faire le film. Et tout en précisant qu'elle n'avait jamais fait de ski de sa vie, ni qu'elle n'avait jamais marché en montagne. Et elle m'a dit, vous êtes sûr? Parce qu'on se vous voyait à l'époque. J'ai dit, bah oui, j'ai confiance. Et c'est vrai que j'avais vu dans pas mal de films, et surtout aussi dans Hippocrate, dans la série.
Thomas Lildy.
Et je la trouvais hyper précise, hyper incarnée, très juste, mais sans non plus qu'elle montre qu'elle sait bien faire les gestes. Voilà, vraiment de manière hyper simple, hyper concrète. Et je me suis dit... elle saura être alpiniste et chef de restaurant où les personnages ne justifient pas leur fonction, leur rôle, mais le sont simplement. Et je suis vraiment ravi de ce qu'elle a proposé, de notre collaboration, de comment elle a joué le jeu de ce film très difficile aussi, voilà, avec, c'était pas un gros budget, puis c'est un tournage en haute montagne, avec un peu de manque d'oxygène, beaucoup de froid, des marches d'approche pour certains décors. Et elle a été, voilà, je la remercie à chaque fois que j'en ai l'occasion.
Alors même si on peut déflorer un peu, le film a été tourné en été, et malgré tout, est-ce que c'est compliqué d'aller tourner en altitude? Comment faut s'équiper? Comment on emmène une équipe technique de cinéma? Parce que quand on vous voit deux à l'écran, faut imaginer quand même qu'il y a quand même du monde derrière, même si ça peut être une équipe réduite, mais il y a quand même du monde derrière qui doit s'occuper du son, de l'image, de tout ce qui se passe autour aussi.
Mais très peu de monde derrière. Parfois, il y a presque moins de monde derrière que devant. Mais oui, on a tourné en mai, juin, juillet. Mais alors, les spectateurs sont un peu perturbés. Mais ça, c'est ce à quoi je tenais. Parce qu'en juillet, il peut neiger à 3005, même au mois d'août. Et comme on a beaucoup tourné à plus de 3005, en juillet, il neigeait sur le décor. Et donc, il y a effectivement les neiges éternelles. Et pour ce qui est du dispositif, moi, j'ai su dès le départ qu'il fallait qu'on soit très peu nombreux pour se laisser accueillir par la montagne. Pour pouvoir profiter de ce qu'elle nous propose, des lumières, des ambiances. Et je rêvais, moi, comme ça, d'une grande variété, un petit peu de visages, si je puis dire. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du soleil. Et donc, pour ça, on était très peu nombreux. On était 5, parfois 6, et parfois 2. Il y a toute la partie d'escalade du film. On était que 2 techniciens et 2 guides d'haute montagne qui nous assuraient. Et on était 4. Et on a tourné 8 jours comme ça. Et moi, j'adore. Ça permet d'improviser, de profiter d'un nuage qui arrive.
réactif.
Et d'être hyper réactif. Et c'était un peu le secret. Donc on a eu beaucoup de jours de tournage pour un film de ce budget. On était soudés, très peu nombreux et très réactifs.
Voilà le secret de la montagne, le nouveau film de Thomas Salvador. Avide de grands espaces, vous avez envie de voir un vrai beau film avec plein de fantaisie. Il y a du drame, il y a aussi évidemment de beaux décors, de beaux acteurs qui nous emmènent dans cette aventure hors du commun. Ça sera le 1er février au cinéma que vous allez pouvoir découvrir en tout cas cette histoire. Merci Thomas d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et on va se quitter avec la bande-annonce tout de suite, La Montagne, au cinéma, ce 1er février.
One, two, like a double click. Very easy, very simple.
Bon, t'es sûr?
Bah, je résiste pas.
Bah, à mardi, hein, du coup.
À mardi. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade, du coup, je sais pas trop quand je vais revenir.
On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure, parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble.
Vous êtes alpiniste?
Oui.
Vous êtes pas sûr?
Si, si.
Tu vas où?
En fait, je vais assez loin.
Salut Pierre, c'est Léa. Ben, je voulais prendre de tes nouvelles.
Pierre! Il s'est passé quelque chose?
Non, rien de spécial.
Allez, on termine notre émission dans un instant avec Enola et Louis de la Star Academy. Ils nous disent tout sur leur parcours et leurs projets. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées, le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Je let it be over. Every high, every low, they will come and they go. To feel alive, you gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a rightness, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow.
Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Sans la solitude, sans toi. J'avais l'habitude de tout ça.
Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude
de tout ça.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, nos invités aujourd'hui, c'est Enola et Louis qui sont là avec nous, des finalistes de la Star Academy. Quel bonheur de vous avoir. Moi, vous étiez mes chouchous. Alors, je peux vous dire, je ne cache pas mon bonheur de vous avoir avec moi.
Merci beaucoup. On est ravis d'être ici. Merci, merci.
Alors, tous les deux, vous avez fait un parcours sans faute à la Starac. Vous avez été tout de suite aimé, apprécié du public. Comment vous avez expliqué cet attachement aussi rapide et comment vous l'avez vécu, surtout ?
Bah, je pense qu'on a surtout été nous-mêmes, profondément nous, profondément alignés avec ce qu'on voulait, c'est-à-dire donner le meilleur de nous, en fait, dans l'aventure. Et en soi, on l'explique pas trop, mais en tout cas, on le vit bien.
Je pense qu'on peut pas l'expliquer et on pouvait pas non plus le savoir parce qu'on n'avait pas du tout accès aux informations extérieures. Du coup, juste on vivait, on était nous-mêmes, on apprenait, on travaillait et on est fiers et heureux de voir que les gens dehors ont reconnu tout ça chez nous et nous apprécient pour ça.
Quels sont les artistes qui vous ont le plus impressionné dans cette aventure ?
Oui. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu la chance de chanter avec une de mes idoles, avec Clara Luciani. Du coup, évidemment, j'étais ravie de la rencontrer et de découvrir aussi la personne derrière la chanteuse, en fait, et de voir qu'elle est aussi merveilleuse, en fait, à la télé qu'en vrai. Et pareil, j'ai découvert le groupe iPhone iPhone, j'ai découvert Pomme, j'ai découvert plein d'artistes, en fait, sous un autre angle. Et ça me fait d'autant plus aimer leur musique, maintenant que je les connais personnellement.
Pour toi, Enola ?
Moi, je pense que c'est mon duo avec Patrick Bruel qui m'a le plus marqué parce que on a vraiment construit le duo ensemble. C'est-à-dire que parfois, je voulais mettre certains moments parler ou chanter ou voilà, que sais-je. Et lui, il me disait, fais plutôt ça là, à cet endroit-là. Et je pense que c'est un des seuls avec qui j'ai vraiment construit la chanson. Et puis, ce magnifique moment où le public chante à notre place, enfin, c'était magique.
Alors, vous avez eu une chance assez incroyable. Vous le savez, la saison 8 de la Star Academy s'est faite dans un hôtel particulier à Paris. La saison 9 sur Énergie 12 s'est faite ailleurs. Et vous avez eu la chance de revenir au château. Ça, c'était dingue. Votre arrivée au château, je m'en souviens encore. Il a fallu attendre 1h30 du matin. Mais c'était assez incroyable de vous voir découvrir ce château.
C'était magique. On en rêvait et on était honorés de pouvoir être les nouveaux châtelains et châtelaines de ce lieu. Et honnêtement, il nous manque un petit peu parfois.
Ouais, on repense à la vie qu'on a eue là-bas et on est un peu nostalgique. Et oui, évidemment, quand on est arrivé, on avait des étoiles dans les yeux et c'était le château qu'il y avait dans la télé. On était dedans et c'était à notre tour et on savait ce qu'il pouvait nous apporter et toute l'aventure incroyable qu'on allait vivre. Donc ouais, c'était incroyable.
Alors, vu le succès de cette saison, on imagine qu'il va y en avoir une prochaine. Quel conseil vous aimeriez donner aux futurs académiciens ?
Alors, moi, j'ai écrit une lettre, carrément.
C'est vrai ?
Ouais, où j'ai donné plein de tips. Mais surtout, avec du recul, là, je dirais gérer son temps de récupération. C'est très bien de travailler, et travailler beaucoup pour atteindre ses objectifs. Mais il ne faut pas oublier que le repos, c'est aussi... ça fait partie, en fait, du parcours pour atteindre l'objectif.
C'est le secret de la longévité, Louis ?
Moi, c'est pas forcément sur le travail ou la récup, c'est plus sur l'humain. Je pense que ils doivent juste apprendre à rester eux-mêmes et pas chercher à correspondre à quelque chose parce qu'ils passent à la télé, changer de personnalité, essayer de devenir star ou de devenir quelqu'un, en fait. Juste, si vous êtes là, c'est que vous avez été pris pour qui vous êtes et c'est que qui vous êtes, c'est bien et il y a un potentiel et ça suffit. Donc, restez vous-même. Cherchez pas à être un autre et ça suffira et ça vous mènera loin.
Alors, dernière question, évidemment, c'est sur vos projets futurs. Évidemment, vous allez peut-être pas pouvoir tout nous dire, mais la seule chose que j'ai envie de vous demander, moi, qu'est-ce que ce parcours vous a donné envie de faire par la suite ? Qu'est-ce que vous avez envie maintenant ? Vous avez envie peut-être de faire du cinéma, on sait pas, hein ? Ou de faire un album, voilà, quelles sont vos ambitions, en tout cas, voilà, immédiates, là, Louis ?
Personnellement, j'ai toujours eu un rêve depuis que je suis tout petit, c'est chanter et faire de la scène. Donc ça n'a fait que renforcer l'idée, cette aventure. Donc j'ai hâte et j'ai envie de faire mon album, j'ai envie de faire une tournée, de faire de la scène, de rencontrer les gens et de partager tout ce que j'ai à partager avec eux. Donc voilà, et le cinéma n'est pas exclu non plus, ça me plaît, c'est tout un milieu qui me plaît, mais je réserve ça pour plus tard. Pour le moment, c'est la musique.
C'est la musique d'abord. Enola ?
Je rejoins pas mal Louis sur le fait de pouvoir partager ses chansons, ce qu'on ressent, être sur scène, faire vibrer les gens. Moi, j'ai ce parcours de comédie musicale et de théâtre en art dramatique. Donc forcément, le cinéma et puis la comédie musicale me tentent beaucoup. Mais on verra bien. On verra bien ce qui se présente sur le chemin.
Bon, on sera là pour vous soutenir en tout cas, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à revenir quand vous le voulez. Vous êtes les bienvenus dans Chute, on écoute la télé. Merci à tous les deux. On va se quitter parce que j'ai envie de vous dire, ne partez pas sans moi. N'est-ce pas? À très vite.
Merci beaucoup de nous avoir
reçus. À très vite.
Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. La plus belle aventure, le plus beau voyage, qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes d'amour.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, ça sera une spéciale Alibi 2. Oui, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Ruti, Elodie Fontan seront nos invités exceptionnels. Deuxième coup de cœur ciné consacré au film Les Têtes Givrées. Stéphane Cazès sera accompagné de Bettina Flender et de Clovis Cornillac qui seront également nos invités exceptionnels. On aura le plaisir de recevoir aussi Gilles Alma pour la sortie de la série L'Abîme qui arrive sur France 2. Et Chantal Latsou viendra également nous faire rire, évidemment, dans l'émission. Alors, vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore lundi prochain non plus.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente sur mariemorin.fr.